Donc, merci d'être venu. Je voudrais simplement commencer par rappeler qu'on a fait trois premières tables rondes. Une première sur les paternités avec le professeur Jean Hauser, qui est malheureusement décédé, et madame Espondard, qui est expert en biologie. Un second table ronde sur la procédure pénale avec monsieur Dominique Ferrière, premier président, et madame Peters, qui est aussi expert en biologie. Une troisième table ronde passionnante sur le décryptage de l'ADN avec monsieur Michel Onfray. Michel Onfray qui a été souffrant ces derniers temps et dont nous nous réjouissons de sa convalescence. Et aujourd'hui, nous allons accueillir monsieur Michel Regaldo de Saint-Blancard, qui est magistrat et qui a exercé les fonctions de président de la cour d'assises de la Gironde pendant plusieurs années. Je crois que c'est 13 ans, mais je ne vais pas dire... C'est ça, de la cour d'assises de la Gironde, et M. Éric Dupond-Moretti, qui est donc avocat, spécialisé en droit pénal, et qui vient d'écrire plusieurs livres que j'ai lus. C'est, s'appelle « La bête noire », les directs du droit, et le dernier qui s'appelle « Le dictionnaire de ma vie ». Alors, j'ai extrait trois citations, M. Dupond-Moretti, pour vous présenter. La première, c'est... qui est très joli, c'est « L'avocat, c'est celui qui prête sa voix à celui qui n'en a plus ». La deuxième citation, c'est une citation amicale, entre parenthèses, « J'ai davantage confiance dans la cuisine de mon pays que dans sa justice ». Voilà, je vois que vous connaissez... Et la troisième qui est intéressante, c'est « Un sentiment n'est pas une preuve ». Et j'ai pensé que c'était une belle citation pour le dossier sur l'ADN. Juge ce que tu vois, mais laisse Dieu juger ce que tu ne vois pas. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'ADN dans le droit pénal. Donc c'est un sujet passionnant. Et c'est pour ça que Monsieur Regaldo, Michel Regaldo et Monsieur Dupond-Moretti sont venus chez Monsieur Mola pour présenter leur expérience sur ce sujet. Donc je vais laisser à M. Regaldo de Saint-Blancard la parole pour nous présenter une première partie donc, sur...
Je vais parler de l'ADN de manière très légère, si je puis dire, parce que c'est évidemment toi, Christian, qui va nous parler beaucoup de techniques et je pense que le débat sera très intéressant à partir de ce que pourra nous dire Maître Dupond-Moretti. Je voudrais commencer d'abord en remerciant Christian d'Outremont-Puig d'avoir organisé comme il a organisé ses précédentes rencontres autour de ce thème de l'ADN, parce que c'est très intéressant, c'est les échanges que nous aurons et toute cette discussion à propos de l'évolution de la justice pénale et des moyens qui lui sont donnés pour avancer. Merci aussi à la librairie Mola, à M. Denis Mola, cette institution bordelaise, d'offrir ces espaces de rencontre. C'est très précieux. Alors, ceci étant dit, effectivement, je vais vous parler de l'ADN dans le procès pénal, mais en faisant un tout petit approche historique, parce que les choses ont tellement évolué depuis le 19e siècle en matière de police scientifique. On est loin de Lombroso et de la description physiognomonique. On reconnaîtrait, selon ces théories, des catégories d'humains telles quelles, notamment le criminel né, pour ce qui nous concerne, à son apparence, qui donnerait des indications fiables sur son caractère ou sur sa personnalité. Beaucoup plus sérieux, je pense, le signalement anthropométrique qui s'est développé à partir des travaux de M. Bertillon, un Français, et puis ensuite les empreintes digitales sur lesquelles on a travaillé également dès le 19e siècle, avec un outil qui est toujours très opérationnel, avec un fichier aussi des empreintes digitales qui est très utile encore aujourd'hui. Et puis donc l'évolution des techniques en matière de biologie avec les empreintes biologiques. Effectivement, depuis la fin des années 1980, les analyses ADN sont devenues un élément de preuve majeur. La question décisive ou pas, on en reparlera évidemment Et c'est vrai que depuis la fin des années 80, et en tout cas en France depuis les années 90, la technique a été utilisée avec quelques laboratoires précurseurs. Et puis ensuite, d'autres laboratoires se sont mis en place, notamment des laboratoires publics. Et c'est vrai que ces techniques ont beaucoup fait pour résoudre des énigmes, des questions, avec notamment des techniques de plus en plus sophistiquées, avec les techniques de micro-dissection laser. Non, en tout cas, je sais que le laboratoire du professeur Doutre-Maupuis utilise ces techniques qui permettent de s'affranchir des problèmes de mélange d'ADN, qui permettent de travailler sur des cellules uniques, ou en tout cas de quelques cellules. On peut aller très vite aussi, il faut savoir, pour utiliser l'ADN, hein. Dans le temps d'une garde à vue, on peut avoir une identification d'un profil ADN, ce qui est évidemment extrêmement précieux. On est donc bien loin aujourd'hui des indices qui étaient liés à une trace de sang dont on arrivait à définir qu'elle provenait de tel ou tel groupe sanguin, ce qui évidemment pouvait être utile, notamment pour discriminer, mais qui était évidemment très insuffisant pour être décisif. Donc les traces de sang, de sperme, de salive, d'urine, d'excréments, les cellules épithéliales donnent effectivement une signature permettant une identification certaine ou quasi certaine, on y reviendra peut-être. Et dès lors que l'on dispose d'un ADN prélevé sur une scène de crime et d'un ADN de comparaison similaire, on peut penser que le dossier est grandement facilité. Il faut savoir aussi que ces techniques se sont rendues d'autant plus utiles avec le développement du fichier, le FNAEG, le fichier des empreintes génétiques, comme d'ailleurs est toujours très utile, je le disais, le fichier des empreintes digitales. On y reviendra sur ce problème du fichier, hein. C'est vrai que ça offre beaucoup de matière à réflexion, évidemment. L'ADN, je le dis tout de suite, c'est vraiment très important. Il sert évidemment à identifier d'éventuels coupables, mais sert, et c'est évidemment capital, à discriminer, à disculper des gens suspects pour d'autres raisons, voire parfois condamnés. Enfin, on sait que de nombreux, enfin, c'est par dizaines que des condamnés à mort aux États-Unis ont été disculpés et sauvés grâce à l'ADN. Et en France, bien entendu, on a des procès célèbres, l'affaire en Bretagne, je crois, de Dickinson, qui a été donné lieu à une disculpation d'un individu qui était effectivement considéré comme évidemment coupable. Alors, l'ADN, il faut savoir que c'est... Enfin, on y reviendra beaucoup plus précisément, mais ça suppose une fiabilité absolue et un travail d'une grande précision en phase d'enquête, en phase d'expertise. Hein. Pas de pollution des scènes de crime, des techniques de prélèvement qui doivent être parfaites, la formation de qualité des techniciens qui travaillent sur les scènes de crime. Il est certain que... C'est vrai qu'on a eu du mal à se faire à ça, parce que dans les années 90 encore, des enquêteurs, voire des représentants du parquet, ou peut-être je ne sais pas, ont pu arriver avec une cigarette à la bouche, hein, et c'est susceptible, et puis on la met là où, sur la scène de crime. C'est arrivé. Et c'est vrai que ce genre de choses pose évidemment de gros problèmes, possiblement. Grande exigence au niveau de l'expertise, avec des protocoles qui doivent être extrêmement exigeants. Jamais de contact entre les scellés de question et de comparaison. Il faut vraiment que le cheminement des scellés soit indépendant pour éviter tout risque de contamination des scellés. Alors tout ça, ça demande beaucoup d'exigences et beaucoup d'exigences au niveau du procès pénal lui-même. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'ADN, parfois de manière caricaturale. On voudrait, c'est humain. Que tout... J'aime beaucoup la citation de Maître Dupond-Moretti à propos de... Ben, il faut savoir ce qu'on juge, qu'on peut le juger quand on connaît. Quand on ne connaît pas, ce n'est pas à nous de juger. Hein. Et je crois qu'effectivement, il faut avoir une certaine modestie à cet égard. La médiatisation des affaires pénales fait que, bien souvent, on veut absolument avoir une réponse à une question, c'est légitime. Soyons prudents tout de même et ne caricaturons pas ce que peut apporter l'ADN. À cet égard, je crois qu'il est très important, non seulement je parlais des techniciens d'identification criminelle, mais également tous les acteurs judiciaires doivent être sensibilisés absolument à cette technique avec son potentiel, ses limites aussi. Et puis lors du procès, il faut savoir discuter. Discuter, échanger. Il faut vraiment admettre qu'on puisse discuter, y compris de choses qui peuvent paraître évidentes. C'est particulièrement vrai en matière criminelle, dans cette vitrine de notre justice pénale, où là, on a une justice. Alors, j'ai souvent dit que je trouve que la justice criminelle est assez rassurante quant à l'état de notre société. Les jurés sont véritablement tirés au sort, mais véritablement, ils sont tous, vraiment, c'est rarissime qu'il puisse y avoir des problèmes, capables d'une réflexion approfondie, d'un recul. Et je crois que les débats en cour d'assises sont particulièrement significatifs de la nécessité d'avoir un débat approfondi avec un expert qui est là, ou parfois par visioconférence, parfois, il ne peut pas être là, c'est toujours dommage. Mais où il puisse y avoir des questions ouvertes, sans pudeur, d'avoir peur de poser une question qui paraîtrait trop, dont la réponse paraîtrait trop évidente. Non, je ne crois pas, absolument pas. Et je crois qu'en effet, il faut absolument avoir ce courage, en fait, de douter. Je crois que d'ailleurs la fonction de juger suppose le doute constructif, le doute cartésien. Une citation d'Aristote, hein, c'est intéressant aussi. L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit. Et je crois que cette approche a tout à fait sa place dans le procès pénal. Il ne faut pas avoir l'illusion d'une certitude de répondre à toutes les questions, de résoudre toutes les interrogations. L'ADN est un élément de preuve, important, parfois décisif, mais très rarement déterminant à lui seul. Il est évident, bon, j'illustre très rapidement, sans parler de certaines affaires particulièrement machiavélique. On a vu des auteurs de viol aller récupérer des préservatifs usagés dans une poubelle pour ensuite les utiliser et pouvoir laisser une trace qui n'est pas la trace de l'auteur de ce crime. Mais au-delà de ce qui, heureusement, est un cas d'espèce tout à fait particulier, il est évident que lorsqu'on a un ADN sur un acte à caractère sexuel, le problème n'est pas résolu pour autant. Reste le problème de l'éventuel consentement. À cet égard, d'ailleurs, je crois qu'il est important, là aussi, au-delà des aspects techniques, que les enquêteurs aient une certaine prudence dans la manière dont ils procèdent à leur questionnement. Certains qu'il ne faut peut-être pas utiliser trop tôt toutes ces billes. On commence par interroger, est-ce que vous connaissez telle personne, est-ce que vous étiez à tel endroit? Si intéressé répond non, et si ensuite on lui dit il y a l'ADN, ça pose problème. Si on le dit trop tôt, peut-être que c'est susceptible de... Ceci dit, quand bien même il y a des évolutions dans les versions données, c'est pas la certitude d'une culpabilité, soyons là aussi prudents. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut se satisfaire de la seule découverte d'une trace ADN identifiée. Pour toute preuve de culpabilité, la question des transferts méritait évidemment d'être posée. On a vu des expériences aux États-Unis avec des hommes qui se serrent la main, et puis voilà, ces choses-là méritent vraiment d'être abordées parce que c'est sérieux, parce qu'il y a eu des expériences menées. Bon, après, il est certain que ça dépend aussi. Enfin, bon, je pense que le débat sera beaucoup plus approfondi avec le professeur Doutomopuche, mais le transfert, ça ne se fait pas comme ça non plus. Enfin, bon, mais c'est vrai que ça existe, le transfert d'ADN. C'est très important et il faut absolument envisager ces doutes. Je le disais, le doute, oui, mais le doute, pas celui du sceptique, le doute cartésien, comme une méthode de raisonnement dont on essaie de sortir par d'autres éléments. L'hypothèse du transfert. On a des dossiers où on se dit ça, possibilité de transfert. Mais transfert, ça suppose qu'il y ait une situation de possible transfert entre la personne dont on a retrouvé l'ADN et la personne qui était susceptible d'être sur les lieux du crime et du délit. Donc, à partir de la possibilité d'un transfert, on s'interrogera sur la possibilité que telle personne suspecte ait été en contact avec telle personne dont l'ADN a pu être identifié sur la scène de crime ou des délits. Donc, je veux dire, tout ça, ça reste extrêmement ouvert. C'est pour illustrer le fait que l'ADN n'est pas en soi décisif, mais c'est effectivement un point de départ extrêmement important dans le procès pénal aujourd'hui. Je voudrais simplement rappeler le serment que prêtent les jurés au moment où on va partir délibérer, parce que je crois que cette méthode cette directive qui est donnée aux jurés, qui n'est pas donnée au juge, l'intime conviction a toute sa place, en particulier devant la cour d'assises, mais je crois que cette formule est tout à fait intéressante, même si elle date quelque peu. Et d'ailleurs, moi, je ne reprends pas les quelques rajouts qui ont été faits depuis l'obligation importante de motiver les décisions de cour d'assises, mais l'essence de ce serment, c'est la loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve, elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction ? Voilà, c'est ça l'essentiel du procès pénal. Et l'ADN est un élément parmi d'autres, qui permet d'aboutir à cette recherche et en espérant aboutir à la vérité. Alors, je vais terminer à propos en évoquant, je crois pour ouvrir la discussion essentiellement, les questions d'éthique. Parce qu'effectivement, l'ADN ne cesse, les techniques d'identification d'ADN et les techniques à partir desquelles on peut définir certaines choses à partir des prélèvements génétiques, ne cessent d'évoluer. Aujourd'hui, l'ADN permet de fournir des éléments de signalement tels que la couleur des yeux, la couleur de la peau, la couleur des cheveux. Bientôt, on ira plus loin, l'âge, je crois, et d'autres éléments. Et c'est vrai qu'il y a un questionnement par rapport à ça. Et je voudrais signaler un arrêt de la Cour de cassation de 2014, je crois, qui a considéré qu'effectivement, on pouvait, dans un cas où on a retrouvé un ADN, mais qui n'a pas pu être identifié, et qui est une personne qui n'est pas signalée au FNAEG, le juge d'instruction a envisagé une expertise pour essayer de déterminer ces éléments, non pas ethniques, hein, ça c'est la Constitution ne le permet pas, mais en revanche, la couleur de peau, couleur de cheveux, couleur des yeux, c'est évidemment important pour éventuellement orienter les recherches dans des crimes particulièrement graves. Et c'est vrai que le juge d'instruction avait pris la précaution de saisir la chambre d'instruction. Je crois que la chambre d'instruction avait validé. Il y a eu un pourvoi et la Cour de cassation a validé en disant que c'était possible. Alors c'est une avancée jurisprudentielle qui mérite probablement la discussion, en tout cas qui montre qu'il y a toujours des problèmes qui véritablement sont importants. Le FNAEG, j'en parlais, ça a des relents d'éthique considérables. Il faut savoir que je crois plus de 2 millions actuellement de signalements au FNAEG enregistrés. Il faut savoir que le FNAEG, lorsqu'on est enregistré au FNAEG, ça peut être pour très longtemps, ça peut être pour 40 ans. Il faut savoir aussi quand même, et ça c'est peu utilisé peut-être d'ailleurs, peut-être pas assez, qu'on peut demander à ce que l'inscription au FNAEG soit enlevée. Il y a une procédure qui est prévue, qui permet, d'abord le procureur peut le faire d'office, si une personne est disculpée et si son ADN a été prise en cours de l'enquête, ce qui est tout à fait possible. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est possible, évidemment, vous le savez. Mais si le procureur se rend compte que c'était une fausse piste, il peut d'office le faire. Et l'intéressé peut le faire lui-même. Et si, à l'évidence, il n'y a plus d'intérêt à garder cette trace, elle peut être, et le juge des libertés de la détention le fera le cas échéant avec un possible recours devant le président de la chambre d'instruction. Les problèmes éthiques, c'est aussi le problème de la proportionnalité entre les moyens utilisés par rapport aux enjeux de respect de la vie privée, de liberté, des libertés fondamentales, et sous notamment l'impulsion, il faut bien le dire, du droit européen, mais aussi à partir de nos textes fondateurs. La question se pose de la proportionnalité. Je prends une illustration. Là aussi, je vais prendre un exemple aux États-Unis, ce qui ne serait pas possible en France. Mais aux États-Unis, une société, je crois que c'était dans l'agroalimentaire, soupçonnait deux de ses salariés d'actes de malveillance sous la forme de laisser des déjections, des excréments, hein, de déféquer dans les locaux de l'entreprise. La société avait fait réaliser des tests ADN, ce qui ne serait pas possible dans une situation telle que celle-là en France. Et d'ailleurs, les salariés ont été disculpés, mais ils ont obtenu des dommages d'intérêt très importants. Bon, il est certain que je pense que la question de la proportionnalité de l'outil doit pouvoir se poser, d'autant que ces outils deviennent très répandus. Il existe des sites, même en France d'ailleurs, il y a un site My Heredité, qui permet de commander des tests ADN à des laboratoires dont on ne connaît pas la fiabilité, on ne sait rien du tout. Et à partir de cela, il y a des banques de données d'ADN. Et d'ailleurs, aux États-Unis encore, il y a une récemment, j'ai vu qu'il y avait des crimes commis dans les années 70 et 80. Il y avait un ADN qui était resté sur une des scènes des crimes qu'on avait gardé des années 80. Et en utilisant ces sites, la police a réussi à retrouver des vagues cousins, à remonter à un arrière-arrière-grand-père, et à partir de là, prendre toute la généalogie et dire il y a telle personne qui était sur place à chacun des crimes, et on a fini par le confondre. Mais c'est vrai que tout ça, ça pose de vrais problèmes. D'abord, la fiabilité de ce genre de tests. Et puis aussi c'est utiliser des ADN qui ont été recueillis, enfin identifiés dans un esprit de retrouver ses racines, et qui sont ensuite utilisés par la police. Ça pose peut-être un problème. Voilà tout ce que je voulais dire pour commencer. Pardon, j'espère ne pas avoir été trop barbant.
Pas du tout.
Trop long, en tout cas.
Michel. Bien, merci. Si personne n'y voit d'inconvénient, on posera les questions donc après le troisième intervenant, car ça sera plus facile d'orienter à ce moment-là les questions. Donc moi, je vais essayer de vous parler de l'ADN d'une façon simple pour le replacer donc dans le procès pénal. Alors, il faut savoir, quand un agresseur pénètre chez vous, dans votre domicile, ou qu'il s'en prend très violemment à une personne, eh bien, il va déposer des cellules. Il faut qu'il dépose des cellules pour qu'on puisse le retrouver. Il va déposer des cellules par contact, sur un verre. Il va déposer des cellules sur une porte. Il va déposer des cellules à chaque fois qu'il va toucher un objet. Donc, entre parenthèses, il faudra lui faire toucher, si vous en avez la possibilité. Il peut déposer du sang par blessure, par bagarre. Lors d'un viol, il peut émettre donc du sperme et on pourra l'identifier. Alors aujourd'hui, on analyse toutes les cellules. Quel que soit le tissu d'origine, on peut aussi bien analyser des spermatozoïdes que des leucocytes du sang, que des cellules épithéliales. Car à l'intérieur de ces cellules, une seule et même molécule, identique pour toute une personne, et c'est là l'avantage de l'ADN, c'est l'ADN. Cette molécule est retrouvée donc, et elle est responsable de la vie, elle est responsable de l'hérédité. Donc c'est fondamental pour tout être vivant. Dans une espèce, nous sommes tous identiques. Si on se compare, nous sommes tous identiques. Donc on ne peut pas analyser la partie des gènes, puisque on est tous identiques dans cette partie. On doit donc travailler sur des parties intergéniques. Et dans ces parties, il y a une petite différence entre nous. je crois. Et dans cette différence, nous avons entre nous des petits satellites de 3, 4 paires de bases. On travaille sur des satellites de 4 paires de bases, qui donc situés entre deux gènes. Et on va simplement compter ces satellites qui sont situés dans les segments d'ADN bien précis. On travaille aujourd'hui sur 21 segments d'ADN, ce qui est bien suffisant, puisque récemment, dans notre laboratoire, l'équipe d'Esponda a pu identifier qu'avec 10 segments d'ADN, on arrivait à des statistiques tout à fait raisonnables et satisfaisantes pour dire que ça correspondait à cette personne. Alors, je reviens un tout petit peu à ce que disait Michel Regaldo. C'est qu'en 2005, dans notre laboratoire, une nouvelle technologie s'est mise en place. On travaillait sur les satellites entre les gènes et on s'est mis à travailler sur des mutations ponctuelles présentes dans les gènes, c'est-à-dire ce qu'on appelle des SNPs, des mutations ponctuelles dans ces gènes. Et on a pu identifier, après 6 ans ou 7 ans de travail, une relation entre la couleur de la peau des personnes et certaines mutations. Et donc, on a identifié 26 mutations qui nous permettent d'identifier 6 couleurs de peau, 7 couleurs de cheveux et 3 couleurs d'yeux. Donc, c'est déjà énorme. Et cette nouvelle analyse porte sur ce que la Cour de cassation a repris notre terme, c'est ce qu'on appelle les caractères apparents. Et de façon éthique, et je rebondis, c'est très important. C'est-à-dire qu'on analyse des caractères qui se voient. On n'analyse pas, et je pense qu'il ne le faut pas, mais il n'y a aucun texte au fond qui l'interdit, les caractères privés que sont l'histoire de la personne, comme l'origine ethno-géographique, que sont les maladies. Pourquoi est-ce qu'on n'identifierait pas les personnes par leurs maladies? Et ça, je crois qu'il ne faut pas le faire. En tous les cas, à Bordeaux, dans notre laboratoire, nous nous sommes interdits de lancer des recherches sur ce sujet. Nous sommes interdits. Alors, vous avez rappelé qu'il y a eu un débat. Alors, pour moi, le débat était surréaliste, parce que les juristes, et je vais dire quelque chose d'un petit peu désagréable, les juristes enseignent l'ADN en deux parties. Donc, c'est très simple. À gauche, l'ADN codant. À droite, l'ADN non codant. Terminé. Donc, c'est simple. On a le droit d'analyser l'ADN non codant et on n'a pas le droit d'analyser l'ADN codant. L'ADN codant, c'est pour les médecins. Bon, en fait, c'est pas vrai. Mais expliquer à des juristes que c'est faux, c'est une autre paire de manches. J'y suis pas arrivé. Et donc, il s'agit d'une même molécule avec des fonctions simplement différentes. Et donc, le futur, c'est bien la détermination de l'âge. Et donc, vous voyez que l'ADN, on va travailler sur les relations extérieures de l'âge, c'est-à-dire quels sont l'environnement qui va modifier l'ADN. Et ça, c'est passionnant. Et donc, on est capable, et j'espère que dans mon laboratoire, la personne qui s'en occupe, Madame Peters, qui est aujourd'hui à Rome pour un séminaire, va mettre les bouchées doubles et rapidement, nous allons avoir des résultats sur ce sujet. Donc, on aura l'âge, on aura la couleur des yeux, la peau, les cheveux. Eh bien, on pourra aller sur la forme du visage avec les caractères sur le nez, les orbites, la bouche, etc. Et on sera capable aussi d'identifier la forme des cheveux et chez l'homme, le type de calvitie. Non, je regardais la... Dans le procès pénal, l'intérêt des analyses génétiques a commencé par un dossier extraordinaire, malheureusement dramatique. C'est qu'en 1983, il y a une jeune fille qui avait à peu près 15 ans, qui était retrouvée nue, violée, dans un petit village qui s'appelle Narborough. C'est un village près de Leicester. Peu après, un jeune homme va être arrêté. Il va avouer le meurtre de cette jeune fille. Et son père est convaincu que c'est pas possible, ce jeune homme, c'est pas possible, il n'a pas pu le faire. Et donc, il va contacter un biologiste, et la police sera d'accord d'utiliser une nouvelle technologie, alors, qui était faite par un biologiste anglais qui s'appelait Alex Jeffrey. Alors, Alex Geffray a travaillé d'abord sur le phoque, donc vous voyez, puis il a travaillé sur les microsatellites de tout son laboratoire. Comme c'était pratique, il a pu vérifier que les enfants de sa secrétaire, que le père de sa secrétaire, que la mère de sa secrétaire, etc., avaient des satellites qui étaient donnés d'origine mendélienne. Et donc, il a utilisé ce test pour la première fois en 1983. Et il aboutit à une chose, c'est que cette jeune femme, l'ADN retrouvé chez cette jeune femme, ne correspond pas à ce garçon. Un deuxième cas arrive, donc ce deuxième cas, dans le village d'à côté, une autre jeune fille, 15 ans, va être découverte décédée, violée, et il va faire le lien entre les deux dossiers. Et à ce moment-là, chose très importante, la police va croire au test. Elle va dire, ça c'est passionnant. Et la police anglaise va décider de prélever les hommes des deux villages. 4582 personnes. Alors, pour une raison anglaise que je ne suis pas capable de déchiffrer, ils vont prélever les hommes de 17 à 34 ans. C'est assez anglais. Et aucun ne va correspondre. Aucun ne correspond. Et en 1987, un homme, dans un pub, va raconter qu'en fait, il s'est fait remplacer. Il s'agit d'un monsieur qui s'appelle Pitchwork, parce que ce monsieur est important. C'est la première personne qui va être accusée seulement par l'ADN. Son ADN correspondant aux deux meurtres précédents. C'était la seule chose qui rattachait à ces deux meurtres. Et là, la police va l'arrêter. Et très vite, il va passer aux aveux. Il sera condamné. Et la presse, à ce moment-là, va être dithyrambique envers le professeur Geffray, Alex Geffray. Et les avocats, pour ce premier dossier, ne vont pas du tout contester la technologie. Aux États-Unis, l'ADN va arriver dans les années 90. Il y a deux procès qui sont importants et qui sont complètement différents. Il y a un premier procès où j'étais aux États-Unis, c'est le procès Castro. C'est un monsieur Castro, qui est accusé du meurtre d'une jeune femme enceinte de 9 mois et de sa fille, je crois, de 4 ans. Donc, qui allait accoucher, elle est lardée de coups de couteau, et le mari de la victime voit M. Castro s'enfuir. C'est un monsieur qui est connu dans le quartier, donc il le reconnaît très bien, la police l'arrête, et elle trouve une tache de sang sur sa montre. Elle l'envoie en analyse. Nous sommes dans les années 88. Il y a les premiers tests ADN aux États-Unis. Et l'ADN correspond à la victime qui s'appelle Madame Poncé. C'est à ce moment-là que deux avocats qui vont être très connus aux États-Unis, M. Peter Neufeld et Sheck, vont combattre très violemment ce résultat. Et quand je dis très violemment, j'étais aux États-Unis, c'est avec un V majuscule. Ils vont aller chercher un généticien très connu, Eric Lander, qui est aujourd'hui directeur de l'école à Harvard, donc très connu. Et l'aboutissement est, M. Castro est acquitté. 6 mois plus tard, M. Castro, dans un remords, alors je ne sais pas si ça existe, va avouer le double meurtre. Donc ça veut dire que les Américains sont un peu perturbés. D'un côté, un juge acquitte une personne, et de l'autre, là, monsieur dit « Vous avez tort, c'est moi ». Donc, c'est quand même très compliqué aux États-Unis. À ce moment-là, aux États-Unis, il y a d'autres procès importants. Les experts se disputent énormément. Les avocats vont dans des émissions de télévision, et tout le monde se dispute. Et donc, les biologistes, notamment le directeur du FBI, qui s'appelle Bruce Budoli, qui est venu de nombreuses fois à Bordeaux, va mettre tout le monde d'accord. Il va réunir tout le monde, et tout le monde va laver le linge-sale, et tout le monde va faire un communiqué en disant « On ne critique plus l'analyse ADN », 1996. Eric Lander, qui est un des leaders contre l'ADN, est d'accord, signe le communiqué, et donc il n'y aura plus. En 2016, Monsieur Lander sera à nouveau chargé par le président Mahama d'une étude sur les analyses ADN. Le deuxième dossier qui est important, c'est le dossier Simpson. Alors, Monsieur Simpson est accusé du meurtre de sa femme et d'un autre monsieur qui s'appelle Ronald Goldman, ce monsieur rapportant les lunettes de sa femme qu'elle avait oubliées dans la pizzeria. Donc lui, il est vraiment au mauvais moment. Voilà. Donc Monsieur Simpson est accusé du meurtre de son épouse. Le procès commence le 22 juillet 1994. Il va durer 253 jours, Monsieur le Président. Il y aura 12 jurés qui vont rester cloîtrés sans pouvoir sortir de l'hôtel et sans pouvoir communiquer à l'extérieur. 253 jours. Le procès est retranscrit en direct à la télévision, y compris les effets. Vous voyez, la télé-réalité n'avait commencé. Les résultats ADN sont intéressants et très simples. Le sang retrouvé sur la scène de crime est celui de M. Simpson, plus naturellement des victimes qu'il avait tuées au couteau. Le sang retrouvé dans la voiture de M. Simpson est celui de la deuxième victime, M. Goldman. Et je viens de vous dire que les avocats étaient d'accord maintenant de ne plus attaquer l'analyse ADN de front, et c'est ça qui est important. Et qui est une leçon pour nous aujourd'hui, ils vont miner la crédibilité de la preuve ADN. Alors, le premier test est tout à fait intéressant. Ils vont s'attaquer. L'infirmière a prélevé 8 millilitres de sang. C'est acté. Le procès verbal fait 6,5 millilitres. Question : où sont passés les 1,5 millilitres ? Réponse de l'avocat. Sur la scène de crime, manipulation de la scène de crime. Deuxième point, alors il y en a beaucoup, j'en ai listé plusieurs. Il y a un gant qu'on retrouve chez M. Simpson, et ce gant contient le sang de Mme Simpson. Donc je pense que c'est un élément très fort. Sauf que l'avocat dit en direct, alors tout ça, ça se passe à la télévision, d'enfiler le gant. Et évidemment, le sang a rétréci le gant, et donc M. Simpson ne peut pas enfiler le gant, ce qui est normal, puisqu'il y avait plein de sang de son épouse. Sauf qu'à la télévision, il démontre à tous les États-Unis que ce n'est pas son gant, puisqu'il ne peut pas le mettre. Voilà. Et donc M. Simpson va être acquitté à la suite de cette action de des avocats. Et il est déclaré innocent le 2 octobre 1995. En 2008, il sera arrêté pour un vol de souvenirs sportifs dans un hôtel à Las Vegas. Et là, il va être condamné à 15 ans de prison. Et il vient de sortir, je crois, il y a quelques jours. Voilà. Donc, c'était. Et j'ai beaucoup étudié ce dossier Simpson parce que bien comprendre comment on peut miner une preuve ADN. En France, il y a eu plusieurs dossiers, et Monsieur le Président, vous les avez rappelés. Moi, je vais en rappeler deux différents. C'était à Nîmes, à côté de Nîmes. Une jeune fille est trouvée dévêtue, violée, sur le parking de la mairie. Et après plusieurs mois d'enquête, personne correspond à l'ADN identifié sur cette jeune fille. Elle avait 15 ans. Et le juge d'instruction va alors, pour la première fois en France, prélever toutes les personnes proches géographiquement du corps et proches amicalement de la victime. Alors, il n'y a qu'une personne qui a refusé, c'était le maire, parce qu'il y avait une réunion de conseil d'administration, donc il était d'accord pour le conseil d'administration. Le conseil municipal, sauf un, le maire, lui, puisqu'il était maire. Mais tout le monde a donné son ADN, et tout d'un coup, un samedi matin, nous avons retrouvé une personne qui correspondait complètement à l'ADN chez la jeune fille. Et c'était intéressant, parce que quand j'ai téléphoné les résultats, la personne que j'ai au bout du fil m'a dit « ça, c'est pas possible, c'est pas lui, je l'ai prélevé, c'est pas possible ». Je dis « écoutez, je m'excuse, mais c'est lui qui correspond quand même ». Et donc, il nous a mis le doute. Et donc, nous avons revérifié les analyses ce samedi matin de septembre. Et dans l'après-midi, on a dit non, non, c'est lui. Parfait. Et ce qui montrait ce jour-là que nous devions être vraiment sûrs du résultat. Et ça, ça nous a été une leçon très forte, je le dis, très important. Une obligation d'exactitude. Le deuxième dossier, vous en avez parlé, c'était le dossier d'une jeune fille qui est découverte morte en Bretagne dans une chambre, dans une maison de jeunesse, dans une auberge de jeunesse. Le suspect est arrêté deux jours après, un lundi. Il passe aux aveux, conférence de presse, toute la France est au courant. Puis le laboratoire arrive un peu à contre-temps pour dire, ben non, cette personne n'est pas la personne qui a déposé son sperme. Le laboratoire ne répond jamais, ne dépasse jamais cette limite. Et je crois que c'est très important. Néanmoins, c'est un choc important pour les enquêteurs. C'est un choc important pour le juge d'instruction. Et puis pour nous-mêmes, parce que je n'étais pas au courant qu'il avait passé ou qu'il était passé aux aveux. Et dans ce cas-là, on avait la preuve scientifique contre l'aveu. Et c'était la première fois en France, et c'était très compliqué de pouvoir expliquer ça. Plusieurs années après, une personne à Miami, qui était en prison, avait son ADN retrouvé, qui était identique à l'ADN retrouvé sur cette jeune femme. Ce qui veut dire que ces deux dossiers ont changé complètement. Quand on déposait sur les groupes sanguins, dans les années 80, l'ADN, excusez-moi, le groupe A correspondait à un grand nombre de personnes. Donc, ce n'était pas un souci, il n'y avait pas de pression. Quand on dit l'ADN correspond à monsieur Untel ou l'ADN ne correspond pas, c'est une responsabilité très importante. Et donc, non, il faut s'imposer dans les laboratoires, ce que vous disiez, Monsieur le Président, une rigueur très forte dans la gestion, la manipulation des pièces, des règles de manipulation qui sont contrôlées par des organismes extérieurs. Chez nous, c'est le COFRAC. Et on a eu des normes très vite de qualité, 2003. Et puis, l'exactitude des résultats. Quand on dit en cour d'assises, est-ce que c'est exact ? On répond pas, je pense. On doit être sûr que le résultat est exact. Et comment on peut savoir si le résultat est exact ? Eh bien, c'est de mettre sur toute la chaîne des contrôles dont on connaît l'ADN, ce qu'on appelle des contrôles positifs ou des contrôles négatifs. Et dans notre laboratoire, je crois que 35 à 40% des analyses sont des contrôles. Et bien sûr, on peut couper ces contrôles et les baisser, mais on prend un risque de se tromper. Et le risque existe. Voilà. Par ailleurs, il faut savoir que je dis souvent, et ça fait rire mes collaborateurs, je dis souvent qu'on est à l'âge de pierre. Ça veut dire que l'innovation est devant nous. On est à l'âge de pierre, donc on doit progresser. On doit progresser. On doit avoir de nouvelles technologies. On doit avoir de nouvelles techniques. Et souvent, en cour d'assises, l'avocat général ou l'avocat nous pose des questions dans lequel on doit savoir ne pas répondre. Je me rappelle qu'il y a quelques années, un avocat général m'avait posé une question très simple. Est-ce que le fait de laver un drap supprime les taches ? J'ai répondu, je ne sais pas. Évidemment, tout le monde a souri en disant, il ne doit pas souvent faire la lessive. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Mais je ne savais pas. Et aujourd'hui, dans notre laboratoire, une tache de sang qui est lavée à 90 degrés avec la poudre miracle, une tache de sperme qui est lavée, eh bien, on peut sortir le profil ADN. Donc ça veut dire, et on l'a fait plusieurs fois. Et de temps en temps, d'ailleurs, j'entends même les OPJ dire, ah ben, on n'a pas saisi parce que la culotte a été lavée, parce que le sous-vêtement a été lavé, ce qui est une erreur. On sait le faire. Donc, vous voyez, on fait très attention quand les avocats nous posent des questions, les avocats généraux, et on reprend ces questions pour les retravailler, pour que la fois suivante, on puisse y apporter, si possible, une analyse. et une réponse qui soit exacte. Néanmoins, quand on est en cours d'assises, et j'en aurai terminé, il faut savoir qu'on est soumis à des limites. L'expert a des limites. Les limites, c'est quoi ? C'est que la liste des objets, la liste des prélèvements est faite par le magistrat et non pas par l'expert. Donc, on ne peut répondre que sur ce que l'on a analysé et pas ce que l'on n'aurait pu analyser. Les types d'analyses, le nombre d'analyses sont validés par le magistrat. Si on n'est pas d'accord, bon, on s'arrange pour ne pas faire l'analyse. Mais c'est des limites qu'il faut bien avoir conscience quand on préside les assises. Ma conclusion, l'analyse de l'ADN en pratique judiciaire a bouleversé, je crois, le procès pénal. Moi, j'ai vécu la période avant et la période après. Ça a bouleversé le procès pénal. Et par contre, ça a émis une responsabilité sur les laboratoires que nous n'avions pas avant, une pression, je dirais, morale sur le laboratoire et sur les collaborateurs du laboratoire, c'est-à-dire qu'il faut une rigueur sans faille, une exactitude des résultats. Et je crois que c'est à ce prix et à ce prix-là qu'on peut être sûr du résultat qu'on donne en cour d'assises. Voilà ce que je voulais simplement vous intéresser sur quelques mots. Maître Dupond-Moretti, la défense a la parole.
Bon, d'abord, j'imagine mal qu'aujourd'hui, un avocat, surtout s'il est un praticien régulier de la cour d'assises, conteste l'ADN comme des avocats ont pu le faire à propos des affaires dont vous nous avez parlé. De la même façon que j'imagine que des avocats ont dû contester l'empreinte digitale, aujourd'hui, personne n'oserait dire « vous avez plus de 13 points caractéristiques, l'empreinte digitale, ça ne vaut rien ». Il est acquis pour toute la communauté judiciaire que l'ADN, c'est quelque chose d'incontestable. À la condition toutefois que les choses aient été bien faites. Et on va en reparler dans une toute petite seconde. Non, le risque de l'ADN, c'est en réalité que l'on s'interdise la réflexion. On a envie, je suppose, quand on est enquêteur, quand on est juge, de ne pas se tromper, évidemment. Et au fond, l'ADN a remplacé l'aveu en ce que l'aveu était considéré autrefois comme la reine des preuves. L'ADN, c'est bingo. Mais regardez, ce verre sur lequel j'ai sans doute déposé mon ADN doit servir à empoisonner une victime, est-ce que la présence de mon ADN sur ce verre signe ma culpabilité ? Et c'est là où le juge va devoir réfléchir. Et il va devoir réfléchir avec l'avocat qui va lui amener peut-être une contradiction indispensable dans la réflexion judiciaire. Pourquoi la trace ADN ou les traces ADN de mon ADN sur ce verre ne signent pas ma culpabilité ? Parce que d'abord, on peut ne pas laisser d'ADN. Les experts, dont le professeur Doutre-Maupuiche, disent, je l'ai souvent entendu le dire, on n'est pas égaux devant l'ADN. Donc il y a des gens qui laissent de l'ADN, il y a des gens qui ne laissent pas d'ADN. Ou parfois en quantité inexploitable. Ensuite, si on trouve un autre ADN, s'agit-il de l'ADN d'un enquêteur qui n'a pas scellé ce verre comme il aurait dû le sceller, ou l'ADN du véritable coupable, si ça n'est pas moi ? Bah, tout ça sont des questions, évidemment, qui sont centrales. Et on ne peut pas faire l'économie de ces questions. L'affaire de Penfougère, elle est emblématique. Vous en avez parlé, Monsieur le Président. Elle est d'autant plus emblématique que celui qui était accusé à un moment, enfin qui était suspecté, avait fait des aveux. Et moi, je les ai lus, ces aveux. Ils sont retranscrits en plus de 10 pages. Incroyablement circonstanciés. Et s'il n'y a pas l'ADN pour discriminer, c'est en réalité le juge Van Ruynbeck qui a l'idée de procéder à l'ADN, au prélèvement ADN de tout un village, de toute une région d'ailleurs. C'est plus de 4000 personnes. Et là, il ne s'est pas limité dans cette tranche d'âge singulière retenue par nos amis anglais. Il est allé un peu plus loin. Et puis on a fini par identifier un ADN qui correspond à un dénommé Arce Montes, déjà connu pour des infractions sexuelles et incarcéré à l'époque, un garçon d'origine espagnole, incarcéré à l'époque en Angleterre. Mais sans l'ADN, moi, je peux vous assurer que le garçon qui a fait les aveux, et encore une fois, moi, je les ai lus, il est condamné. Il n'y a pas un avocat qui peut convaincre un jury populaire, une cour d'assises, de ne pas entrer en voie de condamnation. Pourquoi vous avez fait les aveux ? Alors, à l'époque, d'ailleurs, on se moque un peu de la présence ou non de l'avocat en garde à vue. Aujourd'hui, l'article préliminaire du Code de procédure pénale rappelle que des aveux sans avocat n'ont aucune valeur et en soi, intrinsèquement, ils ne peuvent pas suffire à condamner. S'il n'y a pas l'ADN, c'est une catastrophe. Il y a aussi cette affaire dont on n'a pas parlé, qui est récente. Ces deux garçons qui ont été condamnés à la fois par Montpellier, je crois, et puis par Carcassonne en appel. Ils ont pratiquement purgé leur peine. Peine lourde, c'est plus de 10 ans d'emprisonnement, et effectivement purgé. Et puis, ils ont toujours contesté. Et puis, l'avocat général Legrand va intervenir parce qu'il a un doute qu'il a d'ailleurs exprimé très courageusement. Et grâce à l'ADN, ils vont être... ils vont faire l'objet d'une révision. Il y en a eu peu en France, il y en a une dizaine. Je pense que c'est la dernière révision qui a été prononcée. Ça, c'est grâce à l'ADN. Donc, on a quelque chose, on a un outil qui est absolument fantastique. Mais pour autant... il pose quand même un certain nombre de questions et le juge ne doit pas s'interdire de réfléchir. Et l'avocat ne doit pas s'interdire de travailler. Je voudrais vous donner quelques exemples, dont deux que j'ai vécu avec le professeur d'Outremepuiche. Je défends un voyou qui a un casier judiciaire de voyou, une vie de voyou, et on trouve son ADN sur un gilet pare-balles. Je ne sais pas si vous avez déjà porté un gilet pare-balles, moi j'en ai jamais porté. C'est quand même très coloré comme... vêture. On se dit d'emblée, le type qui porte un gilet pare-balles, c'est pour aller faire un mauvais coup. Très bien. Ce garçon dit, je suis innocent. Certes, j'ai dans mon entourage d'autres voyous. Certes, j'ai essayé ce gilet pare-balles, mais je n'ai pas commis les faits de vol à main armée, etc. Bien. On demande une contre-expertise de ce gilet pare-balles, qui est confiée au professeur d'Outremepuiche. Alors, le professeur d'Outremepuiche, il a un défaut majeur pour la justice, c'est qu'il est cher. Ouais, il est cher parce qu'il fait beaucoup de boulot. C'est-à-dire que plutôt que de faire un petit écouvillonnage du gilet pare-balles, lui, il le découpe, le gilet pare-balles. Et alors, on le retrouve d'ailleurs quand il est scellé avec des traces, vous voyez, des petits carrés. Et puis lui, il va voir dans tous les carrés. Mais naturellement, c'est plus de temps. Et donc, c'est plus cher. Et donc, la justice, parfois, qui est parcimonieuse, mais oui, pour des raisons budgétaires, n'envoie pas devant tel labo, mais devant tel autre. Et quand je dis que j'ai davantage confiance parfois dans la cuisine de mon pays que dans sa justice, vous comprenez que quand vous êtes justiciable, si c'est pour des raisons économiques qu'on n'a pas fait le boulot, il y a quand même de quoi hurler. Donc ce gilet est confié au professeur d'Outremepuiche et à son équipe, et là on retrouve deux autres ADN. Oui, mais ça fait deux fois le doute. Ça signifie que d'autres ont pu porter, et à plusieurs endroits d'ailleurs. Et là, ça ouvre le champ du possible. S'il y a un seul ADN, il est le seul à l'avoir touché. Comme il a le profil, non pas le profil de Lombroso, non, le profil de son casier judiciaire, de son mode de vie. Vous m'accorderez quand même que si on n'a pas de sympathie pour lui ou pas d'empathie pour lui à raison de son mode de vie, ce n'est pas une raison de le condamner au seul fait qu'il est un voyou. On n'est pas exonéré de la charge de la preuve. Et ça donne un acquittement. Et légitimement, ça donne un acquittement. Donc, l'ADN, oui, mais il y a aussi des questions budgétaires, on en reparlera peut-être, qui font que certains labos bossent plus que d'autres. Alors, il y a un autre exemple que je voudrais vous donner qui fait froid dans le dos. C'est une femme qui est condamnée en première instance à la peine de 18 ans de réclusion criminelle. Elle a 65 ans. C'est-à-dire que c'est une vie qui se joue. Et qu'y a-t-il contre elle ? Il y a contre elle essentiellement un cheveu qu'une expertise ADN lui attribue, qu'une deuxième expertise ADN lui attribue. Vous êtes intervenu en qualité de co-expert et il n'y a pas de discussion sur qui est le propriétaire de ce cheveu. Sauf que on note dans les scellés qui ont été... vous savez, les scellés arrivent, ils sont ouverts et ils sont reconstitués. Non, je suis allé visiter, j'ai eu ce privilège, le laboratoire du professeur d'Outremepuiche. Bon, les scellés, ils rentrent d'un côté, ils sortent de l'autre. Pour ne pas, enfin, il y a un tas de précautions qui sont prises, vous en parlera sans doute, qui sont essentielles, parce qu'on est là confronté à une impérieuse nécessité de rigueur. Eh bien, on lit sur la fiche des scellés qu'en réalité, ce cheveu a été découvert, ça n'est pas un conditionnel, c'est un indicatif sur le peignoir de la victime. Et donc, ça signe évidemment la culpabilité de celle que je défends. Sauf que, à bien y regarder, ce cheveu a été découvert en réalité dans le coffre du véhicule de l'accusé. Et il n'est pas anormal que vous ayez dans le coffre de votre voiture l'un de vos cheveux. Et dans l'hostilité totale de la cour d'assises et l'hostilité de la présidente, on passe plus de 4 heures, à visionner scellé par scellé. C'était insupportable. Moi, je savais où j'allais. Mais il fallait apporter une démonstration précise de l'erreur qui avait été commise dans la reconstitution des scellés. Alors, je ne sais pas si vous imaginez la scène, c'est compliqué à imaginer, mais on avait des tableaux qui étaient en réalité les photographies faites par le premier expert qui avait mal reconstitué. Et comme il y avait beaucoup de cheveux et comme il y avait beaucoup de matériel, il fallait examiner case après case. Et il y en avait marre, c'était insupportable, ça durait un temps fou. La présidente n'avait pas du tout envie, ça s'est fait dans la violence, ça s'est fait dans le combat, vraiment, vraiment. Et puis à la fin, on aboutit à cette démonstration que le cheveu, finalement, il sort du coffre du véhicule et qu'il n'est pas sur le peignoir de la victime. Je me souviens d'ailleurs de l'âpreté de mon propos parce que quand ces choses ont été dites, le premier expert a reconnu son erreur. Publiquement, ce n'était pas rien quand même. Et à ce moment-là, je lui ai dit, vous reconnaissez votre erreur, c'est quand même pas, Madame le Président, grâce à vous qu'on est arrivé à cela. Parce qu'elle n'avait aucune envie de discuter de ça. C'est parfois compliqué d'être avocat. Hein. Et cette femme qui avait été condamnée à 18 ans de réclusion criminelle, on se souvient bien tous les deux de cette histoire, a été acquittée. C'est une vie qui se joue. Ça tenait à cela. Des erreurs, j'en ai vu également, des erreurs de paillasse qui sont impossibles chez vous. Il y en a eu, je me souviens d'une erreur de paillasse qui a été faite dans un laboratoire de police scientifique de Lille. Je ne dirais pas qui était l'expert, c'était une erreur de manipulation. Des erreurs de contamination, il y en a aussi, parce qu'il a fallu beaucoup de temps, naturellement, pour former les enquêteurs, les TIC, aux techniques de saisie des éléments. Et on a vu parfois, dans le même scellé, des éléments qui se contaminent, et pour cause. Parce que si vous mettez mon gant, par exemple, taché de sang, pour reprendre l'exemple du c'était quoi, un basketteur? Non, c'était un O.J. Simpson. Football américain. Si vous mettez son gant maculé de sang avec un, je ne sais pas quoi, moi, une petite culotte, j'en sais un peu, importe, il y a un risque de contamination de l'un sur l'autre. Et l'ADN va se doubler. On va le retrouver à la fois sur l'élément qui porte initialement le sang, et puis sur... Donc tout ça, c'est extrêmement important. On a une autre affaire encore, d'ailleurs, j'avais dit deux, c'est une troisième affaire, où on découvre sur un mégot de cigarette planté... dans un entrepôt Ardial, vous savez, les fourgons, etc. Là, bon. Et naturellement, il y a un braquage de fourgons. Et on découvre un mégot. Et un premier laboratoire fait une expertise et découvre l'ADN de celui que je vais défendre. Et malheureusement pour lui, il a le profil. Bon, c'est comme ça. Eh oui, il vaut mieux être, je sais pas, libraire ou boulanger que voyou quand il y a votre ADN dans le mégot qui se trouve sur le... Toute petite parenthèse à ce propos, il y a des affaires dans lesquelles des voyous plus aguerris sont allés récolter dans des bars qu'ils fréquentent des mégots de cigarettes pour les jeter là où ils ont commis leur crime. Et le président Rigaldo parlait tout à l'heure d'un type qui est allé chercher des préservatifs. Moi, j'ai eu un jour une femme qui, pour se venger, après... Il n'y a pas de petit, là, non. Après une fellation, a recraché le sperme de son compagnon dans des préservatifs qu'elle a ficelés, qu'elle a placés dans le frigo, et elle a été arrêtée à temps dans son funeste projet, parce que si elle avait dit « ce type m'a violé et faites l'analyse des draps », on aurait, par définition, retrouvé le sperme de son amant. Oui, il y a ces dangers-là aussi. C'est-à-dire que plus les techniques évoluent, c'est comme les trucs de voiture, si vous voulez. Plus les techniques évoluent pour éviter de voler les voitures, et plus les délinquants s'adaptent, évidemment. Et ils ont aussi un coup d'avance. Ils ne sont pas complètement idiots. Quand il y a trois de leurs copains qui se sont fait prendre pour de l'ADN, moi, je me souviens d'un des tout premiers en France qui était un de mes clients. À la fin de la garde à vue, les gendarmes, les policiers lui offrent une cigarette. Puis il dit, mais qu'est-ce qu'ils sont sympas. Puis alors, comme il y avait 24 heures qu'il n'avait pas fumé, il prend la clope, il l'allume, il tire dessus. Puis à la fin, il le jette dans un cendrier où il n'y avait rien d'autre que son mégot à lui. Ils ont saisi le mégot, ils ont trouvé son ADN. Bon, enfin, voilà. Ben, il n'y a plus un type aujourd'hui qui fumerait, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, les choses évoluent. Et alors, donc, ce mégot est saisi. Et puis, il y a l'ADN de celui que je défends. Et il est acquitté. Mais il est acquitté parce qu'il y a toute une difficulté, dans la reconstitution des scellés. Et puis, le parquet général interjette appel, furieux de cet acquittement prononcé, et demande une contre-expertise qui est confiée au professeur d'Outremepuiche. Et donc, ce morceau de mégot, qui n'était d'ailleurs pas un mégot, c'était le Céléon, j'en ai le souvenir, est expertisé. Et là, on trouve un autre ADN. Alors, l'explication, c'est quoi, là ? Là, pour le coup, c'est pas que le premier labo ne fait pas le boulot, c'est qu'il reconstitue mal les scellés et qu'on ne sait plus où le scellé a été découvert. Donc ça n'a plus de force probante. Parce que dans l'intime conviction dont parle le président, il y a des mots à retenir, c'est intime conviction, mais c'est aussi fondé sur la preuve. Voilà. Et donc là, ben, l'ADN devient aussi discriminatoire, mais il y a entre les deux labos des résultats qui sont totalement et fondamentalement différents. Bon, ce que je veux dire aussi, bien sûr, c'est que on a vu des problèmes de lecture, parce que vous savez que l'ADN est centralisé dans un fichier qu'on appelle le FNEG. Il y a une histoire absolument atroce qui se passe à Marseille, qu'on appelle l'affaire des Cars 13. C'est une société d'autobus. Et on découvre une jeune femme étranglée avec un fil électrique. On extrait de l'ADN de ce fil électrique et aux deux bouts. Donc on se dit c'est très vraisemblablement l'ADN de celui qui l'a étranglé. Et là, on envoie ça au FNEG, et le FNEG fait une erreur de lecture, et les policiers sont amenés chez un malheureux qui vit dans l'Oise, et on a obtenu son ADN au FNEG parce qu'il avait un jour battu son épouse. Bon, voilà, c'est pas merveilleux, mais enfin, c'est pas un étranglement non plus, si vous voulez, s'il y a une gradation dans les choses. Et là, les enquêteurs sont interpellés parce que son mode de vie ne permet pas aux enquêteurs, mais c'est là où il faut réfléchir, et c'est là où l'ADN en soi ne peut pas être considéré comme une preuve qui interdirait un cheminement intellectuel pour parvenir à une démonstration. Et là, il a un mode de vie tel, il se déplace dans une voiture électrique, etc. C'est un malheureux, et on se rend compte qu'il n'a jamais pris l'avion de sa vie, qu'il ne s'est jamais déplacé, il n'a jamais été à Marseille. Et là, on se dit, mais quand même, qu'est-ce qui se passe ? Enfin, ça ne correspondait pas au profil. Et donc, les enquêteurs, plutôt que de se focaliser, heureusement, sur les résultats ADN, eh ben, ils demandent de nouvelles expertises, etc. Et là, on se rend compte de l'erreur de lecture. Mais imaginez tout de même, et ça, c'est vertigineux, parce que la justice, c'est parfois vertigineux, imaginez que ce garçon-là ait eu un autre mode de vie, que ce jour-là, il n'ait pas eu d'alibi, qu'il se déplace régulièrement en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qu'il est... plutôt que de battre sa femme, il est eu, je sais quelle affaire, de pervers sexuel. Enfin, peu importe. Quelques coïncidences qui auraient fait que les enquêteurs ne doutent jamais. Ben, le type, il pouvait dire, c'est pas moi, je jure que c'est pas moi. Hein. Moi, je pense qu'on va directement vers une condamnation. Et qui que ce soit en défense et qui que ce soit qui préside des assises. C'est ça qui est extrêmement... troublant dans ces histoires. Parce qu'à la fois, c'est une immense avancée, l'ADN, mais en même temps, plus la science progresse et plus nous ne pouvons pas nous départir, vous, de votre rigueur et nous, de notre vigilance, parce que ça peut donner une absolue catastrophe. Si on prend l'ADN brut sans le remettre dans un contexte, c'est pas parce qu'on retrouve de l'ADN dans un vagin que c'est un viol. Il y a ensuite toute une démonstration à faire. Peut-être que c'est un acte sexuel consenti. Peut-être que le viol a eu lieu après. Peut-être que. C'est-à-dire que toutes ces questions-là, on est quand même contraint de se les poser. Faute de quoi, si l'ADN en soi est une démonstration de culpabilité. Et ensuite, il y a, moi je le dis très librement ici, la façon dont les experts viennent témoigner. Il y a la science dont on peut parler, le résultat scientifique, et puis il y a parfois, je l'ai vu, des avocats-juges généraux qui ont en charge de mener l'accusation, ou des présidents d'ailleurs, qui essaient d'obtenir de l'expert autre chose que de la science pure. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que si on lave, il reste encore ? Et alors, vous avez des experts qui, comme le professeur d'Outremepuich, disent, moi, je ne sais pas, je ne dis pas. Puis vous en avez d'autres qui, pour complaire, qui pour ne pas passer pour des idiots, qui pour donner une réponse, pour ne pas être déstabilisé sous l'éclairage judiciaire, disent, bien, on peut penser que, etc. C'est vrai pour toutes les questions de contamination, les transferts. Je touche cette table, le président met sa main sur la mienne, il se peut qu'il emporte mon ADN et qu'il le dépose sur ce verre. Alors quand vous dites, mais est-ce que c'est possible ça ? Vous dites, ah oui, mais... Alors, le grand expert, il doit dire, écoutez, on est dans le domaine de la possibilité, mais parfois, on demande même un petit pourcentage. J'ai vu ça. Oui, mais alors, quel ordre, monsieur l'expert ? 80%, mais il n'en sait rien, l'expert. Tant qu'il n'a pas fait l'expérience, il ne peut pas répondre à ça. Donc, il vaut mieux qu'il dise « je ne sais pas », plutôt que de dire « aujourd'hui, je pense que vous pouvez dire avec certitude que même si on lave, on peut retrouver de l'ADN ». Mais pourquoi ? Parce que de façon expérimentale, vous l'avez fait. Et voilà. Et ça, c'est une réponse alors que l'on peut fournir. Mais il y a parfois, je le dis, c'est le danger... des experts qui s'aventurent sur un chemin pour complaire à l'interlocuteur qui lui pose la question. Et ça, c'est toujours extrêmement dangereux, parce que quand l'expert il a dit « oui, c'est possible », il n'y a pas un avocat qui peut se lever pour dire « enfin, vous dites n'importe quoi », parce que là, on vous regarde, vous dites « enfin, vous, vous n'êtes pas expert », etc., etc. Vous voyez le mécanisme qui se met en place. Donc, sur le terrain probatoire, il faut être extrêmement attentif. Et puis, il y a aussi, d'ailleurs, il faut en parler, puis après, j'ai terminé. Je ne sais pas si mon quart d'heure est écoulé, là. Dans 44, il me reste... j'ai dépassé de 30 secondes. Il y a aussi l'évolution de la science. Professeur d'Outremepuich, on a eu des certitudes en matière d'ADN que l'on n'a plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a affirmé très longtemps que l'ADN mitochondrial, ça signait l'appartenance à une lignée maternelle. C'est exact encore, mais on peut avoir le même ADN mitochondrial sans être dans cette filiation maternelle. Et on a constaté qu'il y avait des ADN mitochondriaux, de gens qui n'appartenaient pas à la même famille dans la lignée maternelle et qu'ils étaient identiques. Il y a un certain nombre d'études qui ont été conduites sur ce point et j'ai même un expert dont le nom m'échappe à cet instant qui a témoigné devant un juge d'instruction sous la foi du serment de ce que le champ du mitochondrial avait été un peu élargi. C'est-à-dire qu'autrefois on disait bah, c'est forcément des frères ou des cousins la lignée maternelle. Aujourd'hui c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Donc vous-même vous êtes en évolution permanente dans ce que vous découvrez, ce que vous dites d'ailleurs avec beaucoup d'humilité, puisque vous dites c'est l'âge de pierre, et puis on progresse et on progresse tous les jours. Voilà un peu moi ce que je voulais vous dire. En réalité, c'est que ça n'a rien enlevé à l'intelligence humaine, l'ADN. Et ça nous contraint, au contraire, parce que ça semble facile à bien des efforts. Et puis, puisque vous avez cité Socrate, moi je voudrais citer Nietzsche, qui est... même pas mal non plus, c'est une autre belle référence, qui dit « ce qui rend fou, ça n'est pas le doute, mais la certitude ».
Je vais commencer à conclure, c'est donc pas tout à fait la conclusion. Moi, ce que je peux dire, c'est véritablement que la justice est en constante évolution et la réflexion pour chaque dossier doit aussi être ouverte à toujours une écoute des éléments nouveaux qui peuvent être apportés par la discussion notamment. Et je crois que l'oralité est particulièrement importante. J'entends, on parlait de la monsieur posait la question à propos de la scène de crime et de la certitude que les choses se soient passées correctement. Je veux dire, aux assises, bien souvent, on a le directeur d'enquête ou celui qui a dirigé les opérations sur la scène de crime qui dépose. Et c'est parfaitement important de l'écouter, qu'on puisse lui poser les questions. Donc je crois que ce qui est vraiment important, c'est en effet de retenir qu'on a là un outil qui est extraordinaire, qui n'a d'ailleurs évidemment pas tout donné, dont on peut se poser la question de savoir s'il faut vraiment qu'il donne tout, parce que ça pose des problèmes éthiques. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Je crois vraiment que c'est important. Il faut le garder en mémoire, en l'esprit. Mais on a un outil extraordinaire qui, de toute façon, ne donnera pas toutes les solutions. Et on n'aura jamais toutes les solutions. Voilà.
Merci Michel. Maître Dupond-Moretti, votre conclusion ?
Il me semblait que j'avais déjà conclu. Moi, je peux difficilement faire mieux. Donc, voilà, l'ADN est ce qu'il est. Et il n'interdit surtout pas la réflexion. Et au contraire, Il est une... Comment dirais-je ? Il ne peut pas être considéré comme quelque chose d'intrinsèque. Il faut qu'il y ait toute une réflexion sur la façon dont on l'interprète. Et ça, ça reste de l'œuvre humaine. Au fond, ça n'a rien enlevé à notre réflexion judiciaire et au cheminement de la preuve, à la façon dont on aboutit à la preuve. Au contraire, tout se discute. Et quand, vous voyez, si vous remémorez tous les exemples que nous avons donnés les uns et les autres, entre cette erreur de cheveux là, qui passe d'un peignoir à un coffre de voiture, cette histoire des délinquants qui ont parfois un coup d'avance et qui vont jeter des mégots, etc., etc., tout ça, ça nous rappelle qu'il ne faut pas que l'on puisse se départir de notre prudence. Le doute, c'est une vertu cardinale, profite à l'accusé. Et c'est dans cet esprit-là que l'ADN doit être examiné, systématiquement et toujours. Parce que sinon, on va au-devant d'un certain nombre de catastrophes. C'est une certitude. Rien n'enlève notre réflexion. Mais c'est presque rassurant, hein. Vous savez, au moment où on parle des intelligences artificielles, là, j'ai déjà entendu des jeunes gens me demander dans des réunions comme celle-ci, est-ce que demain, les ordinateurs vont remplacer le juge ? C'est assez curieux, ouais, en compilant un certain nombre d'affaires. Non, je pense que notre réflexion, elle est autour de l'ADN totalement nécessaire, indispensable, consubstantielle à ce que doit être la justice. Voilà. Il ne faut pas transiger sur les principes qui sont les nôtres au motif que la science a évolué. C'est voilà la conclusion que je peux tirer de notre réunion.
Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur l'Avocat. Encore un autre merci de vos remerciements, parce que ça nous touche beaucoup. J'espère que ce débat vous aura intéressé ou apporté. Je crois qu'il a été particulièrement intéressant. Je remercie tout le monde, les personnes de la salle, la personne de Montpellier avec sa brillante question, et les interlocuteurs. Merci à tous.